La loi organique pour le report des élections provinciales adoptée par les sénateurs. Le texte doit maintenant être transmis au Conseil constitutionnel. Séance budgétaire au Congrès. Les élus débattent sur une décision modificative du budget, mais aussi sur l'affectation de la TGC. Le procureur général propose la création d'un centre de semi-liberté en attendant la construction d'une nouvelle prison. Camille Miancioni était notre invitée ce matin et s'en est expliquée. En métropole, les débats sont toujours intenses autour du budget. L'opposition introduit un amendement pour surtaxer les bénéfices des entreprises multinationales. Et puis du football dans la page sport avec la 10e journée de Ligue 1. Paris cale à Lorient et fait match nul un partout. Marseille piétine aussi de partout face à Angers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les professionnels de la construction ont lancé l'alerte à plusieurs reprises. Le milieu du BTP va mal en Calédonie. Le secteur d'activité emploie pourtant plus de 4000 personnes sur le territoire. Y a-t-il encore de l'investissement et quelles sont les perspectives pour le BTP? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour lequel nous nous retrouverons à la fin de ce journal en compagnie d'Éric Laffitte, le coprésident de la Fédération calédonienne du bâtiment et des travaux publics, la présidente de SEM Sud Habitat Muriel Malfar-Paoga, Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat et Julien Labeaune de la CPME, gérant d'un bureau d'études. Rendez-vous pour les jeudis de l'économie dès la fin de ce journal. Le Parlement a définitivement approuvé mercredi le report au plus tard au 28 juin 2026 des élections provinciales qui étaient à l'origine prévues en novembre. Au lendemain de l'adoption de la proposition de loi organique par l'Assemblée nationale par 279 voix contre 247, le Sénat a approuvé très largement le texte avec 298 voix contre 39, Elisabeth Noir.
Une adoption très large et on s'y attendait. La proposition de loi organique émane en effet de 6 groupes sur les 8 que compte le Sénat, ce qui traduit un large consensus. Une motion d'irrecevabilité avait été déposée par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki, auquel appartient le sénateur Robert Rowy, une motion qui a été rejetée. Et c'est Naïm Mamouchou, la ministre des Outre-mer, qui a défendu le report des élections provinciales à la tribune. C'est, dit-elle, un texte qui reporte pour apaiser.
Il faut du temps, il faut du temps pour se parler, il faut du temps pour reconstruire la confiance. Et c'est le sens de ce texte qui ne reporte pas pour retarder, mais qui reporte pour apaiser. Il ne s'agit pas de suspendre la démocratie, mais de la rendre possible. Il ne s'agit pas non plus de renoncer au consensus, mais au contraire, de lui donner une chance supplémentaire de se construire. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire, je ne veux pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres partis. La main tendue reste la même, construire ensemble à partir de ce qui nous rassemble, c'est l'état d'esprit du gouvernement, c'est celui dans lequel je me place et me placerai dès ce week-end en me rendant là-bas.
La recherche d'un consensus politique local reste l'objectif, souligne la ministre des Outre-mer. Mais elle insiste aussi sur la nécessité de répondre à la situation économique.
Je veux aussi dire un mot de la situation sur le terrain, car aucun accord politique ne pourra tenir sans perspectives économiques et sociales crédibles pour les Calédoniens. Le Premier ministre l'a dit, il n'y aura pas de paix durable sans développement. C'est pourquoi je prépare, avec les élus, avec les acteurs économiques, avec la société civile, avec les associations, un plan d'investissement et de redressement pour le territoire.
La ministre des Outre-mer, Naïm Mamouchou, qui est attendue dans quelques jours en Nouvelle-Calédonie, elle reconnaît que l'accord de Bougival mérite d'être éclairé et précisé, mais nous ne pouvons pas faire, dit-elle, comme si l'accord n'était pas soutenu par toutes les forces politiques locales, à l'exception du FLNKS, et elle a souhaité s'adresser directement aux Calédoniens.
Je tenais à m'adresser directement aux Calédoniennes et aux Calédoniens, à celles et ceux des tribus, des quartiers, des îles, Loyauté, de la Brousse et de la Grande Terre, à ceux qui doutent, à ceux qui espèrent, à ceux qui veulent simplement vivre en paix. Je dis, ce report n'est pas un recul, c'est une étape. Il ne retire rien à la démocratie, il ouvre un chemin politique. Le temps qui s'ouvre doit être mis à profit pour dialoguer, pour bâtir ensemble un avenir apaisé. L'État sera présent, mais il n'agira pas seul. Tout ce qui sera fait le sera avec les institutions locales, avec les partenaires économiques, avec les coutumiers, avec la société civile, avec les Calédoniens. L'État tiendra parole, gouvernement, ministre, président des chambres et parlementaires. Une fois encore, sur la Nouvelle-Calédonie, les élus de la majorité de l'opposition, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont montré qu'ils savaient s'unir lorsque l'intérêt du pays et du territoire l'exigeait. Vous pouvez collectivement nous faire confiance.
Naïm Mamouchou qui doit donc commencer son voyage lundi en Nouvelle-Calédonie, une visite prévue pour durer 5 jours. Parmi les prises de parole au Sénat, celle du sénateur calédonien Robert Rowy, il a pris la parole pour s'opposer au report des provinciales.
Reporter n'apaise pas. Reporter prolonge l'incertitude, délégitime les exécutifs en place et enfonce le pays dans la défiance. Reporter, ce n'est pas donner du temps au temps. c'est confisquer le temps du peuple. Si vous voulez réellement possible le dialogue, commençons par restaurer la légitimité démocratique. Ce qui nous manque, ce n'est pas un nouveau report, mais la volonté politique d'écouter le pays et de renouer avec l'esprit du consensus. Le texte n'est plus lié à Bougival. Chacun appréciera la pudique réécriture. On garde le report, on efface le mot Bougival et l'on espère faire croire que l'intention a changé. Les mots ont changé, mais pas la méthode.
Et au terme du débat, la loi organique qui reporte les élections provinciales au plus tard au 28 juin 2026 a donc été adoptée très largement par le Sénat avec 298 voix contre 39.
La loi va maintenant être transmise au Conseil constitutionnel et les délais sont très courts. Elle doit être en effet promulguée avant le 2 novembre. Hier, c'est l'Assemblée nationale qui avait adopté dans un scrutin très serré le report des élections provinciales. Et le député Emmanuel Tchibaou est revenu face à la presse sur le déroulement des débats.
Emmanuel Tchibaou qui regrette d'abord que le gouvernement n'assume pas ses responsabilités et s'en remette aux parlementaires pour les discussions institutionnelles concernant l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le député indépendantiste affirme par ailleurs que s'il n'y avait pas d'accord entre tous les partis calédoniens d'ici le mois de juin, les prochaines provinciales ne pourraient pas être organisées avec un corps électoral ouvert. C'est l'assurance qu'il aurait reçue du député socialiste Arthur Delaporte.
Ce qui nous a été dit à la commission mixte paritaire et en assemblée, s'il n'y avait pas d'accord en juin, les élections se feraient sur la base du corps électoral actuel. Ce qui a été dit par le député Delaporte, par les camarades socialistes, c'est qu'il n'y aurait pas d'élection provinciale sur un corps électoral ouvert. Le PS se porte en garant du consensus et qui a bien indiqué qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'élection provinciale qui se tiendrait sur un corps électoral ouvert. Les discussions se poursuivent pour écrire la suite de l'accord de Nouméa et que s'il n'y a pas d'accord à ce délai, les élections se tiendront conformément à la loi et conformément aux décisions du Conseil constitutionnel sur le corps électoral actuel, c'est-à-dire le corps électoral gelé.
Interrogé par ailleurs sur la prochaine visite de Naïm Mahamoudchou en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Tchibaou indique qu'il ne refusera pas de participer à des discussions. Mais il répète que l'État a manqué à sa parole et qu'il y a désormais une rupture de confiance.
Je sais qu'il y a des velléités de se rendre à la tribu, là-haut, à Tidanit. Bon, nous, je ne sais pas, on va les dire quoi encore, parce que là, on voit ce qui se dit à l'Assemblée. Enfin, pour moi, ils ont manqué à leur parole. Si on doit aller les rencontrer, il faut qu'ils assument ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas inverser les rôles. On n'a pas renié nos engagements. J'ai signé un projet d'accord. On a dit qu'on faisait retour. Maintenant, on poursuit la phase des discussions. Aujourd'hui, les discussions, elles sont à la main de Naïm Mahamoudchou. La crainte, c'est que la rupture de confiance qui est, je dis, entamée du fait des stratégies qu'on voit opérer ici sur le dossier calédonien à Paris par le gouvernement. Si on veut engager les discussions de manière sereine, il faut lever le doute sur un certain nombre de choses qui se sont passées l'année dernière au nom du gouvernement français et qui mettent aussi en difficulté le processus de discussion.
Le député Emmanuel Tchibaou, hier, face à la presse. Et puis, autre commentaire sur le débat de l'Assemblée à l'Assemblée nationale, celui de la chef de file des députés Rassemblement national. Le scrutin, on le disait, a été très serré. Et le Rassemblement national a voté contre le report des provinciales. Marine Le Pen s'en est expliquée sur LCP, la chaîne du Parlement, dont elle était l'invitée.
Est-ce que vous imaginez demain le gouvernement faire une conférence de presse en disant que les prochaines législatives auront lieu 2 ans plus tard que ce qui est prévu? Et on leur explique que c'est 24 mois, on a décidé que ce serait 24 mois plus tard. Je trouve que ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas démocratique, ça n'est pas respectueux. On ne peut pas dire on va obtenir une négociation en repoussant les élections. Non, parce que sinon vous allez négocier avec des gens qui, dans l'esprit de la plupart des habitants de Nouvelle-Calédonie, ne sont plus légitimes. J'ai plaidé pour que les élections aient lieu, peut-être avec un délai d'un mois supplémentaire. On était prêts, nous tout à fait, à accepter décembre ou janvier, pour que les négociations qui vont avoir lieu puissent l'être avec des élus légitimes.
Marine Le Pen qui justifie donc le vote contre le report des provinciales de la part des députés du Rassemblement national.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits qu'une majorité se soit dégagée à l'Assemblée nationale pour reporter les élections provinciales au plus tard à juin 2026. Ils ne sont que 6% à être d'un avis contraire. Et voici notre question du jour. Selon vous, la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïm Mahamoudchou, arrivera-t-elle lors de son prochain séjour en Nouvelle-Calédonie à ramener tout le monde autour de la table? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Une séance budgétaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les élus sont réunis dans l'hémicycle du boulevard Vauban. Les discussions ont été nombreuses lors de l'examen de la décision modificative numéro 3 du budget principal. Il est en baisse de 6%, c'est-à-dire 10,3 milliards de francs par rapport au budget primitif, Nicolas Legrand.
Oui, un exercice budgétaire et comptable pour boucler l'année. Les chiffres, vous le disiez, sont assez alarmants. L'objectif est de faire face à cette perte de recettes fiscales de 55 milliards cette année, alors que le gouvernement avait tablé à l'origine sur 35 milliards de pertes. En tout, le territoire enregistre une chute de ses recettes fiscales de 25% par rapport à 2023. Alors pour financer ses comptes sociaux notamment, le gouvernement a d'abord décidé de réaffecter une partie du produit de la TGC qui, elle aussi, est en forte baisse de 2 milliards de francs, traduisant le ralentissement de l'économie depuis les violences de mai 2024. Le gouvernement décide donc de verser 1,14 milliard issus de la TGC à l'agence sanitaire et sociale d'un côté, et pour financer de l'autre, la maternité et les urgences de la clinique Queen Domanien, une délibération approuvée par le Congrès. Autre conséquence des pertes de recettes fiscales, les collectivités vont devoir revoir à la baisse leur budget de 3,1 milliards de francs par rapport au budget primitif de reversement. Dans le détail, 1,7 milliard pour les provinces, 520 millions pour les communes et 860 millions pour le gouvernement. Les délibérations examinées ce jour visent aussi à intégrer la deuxième tranche du prêt garanti par l'État de 26,1 milliards de francs. À l'origine, ce prêt garanti par l'État devait être de 28,6 milliards de francs, mais les conditions de décaissement ne sont pas toutes remplies. L'État a donc décidé de verser le reliquat de 2,5 milliards sous forme, je cite, d'une subvention républicaine. 62% de l'enveloppe revient aux communes, notamment pour financer les cantines et le transport scolaire, 29% pour les provinces, 8% pour le SMTU et 1% pour la Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès a pris la parole pour les loyalistes. La présidente de la province sud regrette l'expression de subvention républicaine alors qu'il s'agit d'un prêt qu'il faudra rembourser avec des intérêts pour une enveloppe qui est entièrement fléchée par l'État sans que les collectivités ne puissent faire de choix. Philippe Michel pour Calédonie Ensemble a même parlé d'oucase de l'État. Quant à Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement, elle affirme elle aussi son opposition et comme les autres groupes déclarent avant elle, eh bien qu'elle interpellera la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou sur cette question la semaine prochaine. Quant à Milakoulo Toukoumouli pour l'éveil océanien, il affirme que ce n'est pas de la tutelle, c'est de l'infantilisation, la manière dont l'État nous traite ou nous maltraite. Fin de citation. Côté indépendantiste, Marilyn Sakilia et Maria Waka ont pris la parole et ont affiché notamment leur souhait de demander à l'État l'autorisation pour la Nouvelle-Calédonie de pouvoir emprunter de l'argent auprès de pays étrangers, je cite, à taux zéro. L'examen des textes se poursuit actuellement. Il y a une suspension de séance depuis maintenant une trentaine de minutes puisque des amendements ont été déposés en séance. En attendant que les votes de ces cinq délibérations, il sera notamment question de l'enseignement catholique privé, puisqu'il y aura notamment des textes sur la DEC qui doivent passer dans les prochaines minutes. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
Il est 11h43, vous êtes à l'écoute de Radio Rythme Bleu, une pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Oh bah, c'est quoi toute cette neige? Tu prépares les décos de Noël? Ah,
c'est pas de la neige, c'est de la farine. J'essaie de faire de la pâte à pizza, mais c'est galère.
Pourquoi tu t'embêtes? À la Maison du Pain jusqu'au 31 octobre, pour l'achat d'une plaque de pizza à 3990 francs, la deuxième est à moins 50%. Il y a Rennes, trois fromages, Montagnard, pepperoni et chèvre pesto.
Ok, je fonce.
Hé, pep, la Reine des Neiges, là. Tu nettoies tout ça avant.
Oh, mais non.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué. Faites vos courses autrement.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les conditions de détention au camp Est restent un sujet de préoccupation. Nous en avons parlé avec le procureur général Camille Miancioni, qui était notre invité ce matin. Cette semaine, le centre pénitentiaire a été condamné pour le délabrement de certaines cellules. La solution, c'est bien sûr la construction d'une nouvelle prison. Elle avait été annoncée lors de la visite du garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti. Et nous avons demandé au procureur général où en était le dossier.
Le nouvel établissement ne fait pas débat. Il y a un consensus, et c'est acquis, et malheureusement depuis très longtemps, il est acquis qu'il faut un nouvel établissement pénitentiaire pour Nouméa, pour la Nouvelle-Calédonie, de façon générale.
Le principe est acquis, mais on a l'impression que le dossier n'avance pas.
Alors le dossier n'avance pas, du moins le dossier est soumis à tous les aléas du fonctionnement institutionnel et politique. Parce que pour pouvoir acter, il faut des budgets, il faut des majorités politiques, etc., etc. Donc, je pense que ce projet, qui ne souffre, encore une fois, d'aucune discussion sur le principe, sur son utilité, est aujourd'hui soumis aux aléas des débats, des discussions et des disponibilités budgétaires aussi. Donc, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, si ce n'est que le projet reste acquis, reste à finaliser avec la cession de la parcelle qui a été identifiée au profit de l'État, l'engagement des études, le vote des budgets et ensuite la mise en œuvre de ce projet.
Ce projet mettra des années à voir le jour et en attendant, il faut trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle le procureur général propose la création d'un centre de semi-liberté qui pourrait accueillir une centaine de détenus car la situation ne peut pas durer.
Ce constat nous amène à nous poser une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste en l'État jusqu'à l'arrivée d'un nouvel établissement, avec des échéances à peine établies, à peine identifiées, ou alors, en attendant ce nouvel établissement, on trouve une solution pratique, adaptée, et un centre de semi-liberté, c'est pas la liberté, c'est un centre de semi-liberté pour préparer la sortie, pour une certaine catégorie de détenus qui pourraient bénéficier d'un accompagnement avec de l'insertion professionnelle, avec de la formation, ou alors ce qu'on appelle aussi du placement extérieur. L'idée, c'est de ne pas attendre encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, la sortie de terre de cet établissement pour essayer de régler cette situation qui doit être réglée. Parce que ce n'est pas normal que l'État soit condamné.
Le procureur général nous a indiqué qu'il avait rencontré le maire de Nouméa qui a proposé l'utilisation, après travaux bien sûr, d'un ancien établissement scolaire désaffecté pour accueillir cet éventuel centre de semi-liberté. Nous avons aussi évoqué avec Camille Mionsoni la situation générale en Calédonie. Il y a quelques jours, il a publié un communiqué commun avec le procureur de la République dans lequel les deux hommes rappellent que la justice reste mobilisée et attentive à toute infraction.
Il y a une attention accrue à un certain nombre d'infractions, en particulier tout ce qui a trait à l'atteinte aux forces de l'ordre. Et donc une réponse assez rapide et ferme pour tout ce qui concerne les atteintes aux forces de l'ordre. Et c'est ajouté à cela tout ce qui concerne les menaces aux élus, les menaces aux personnalités publiques en lien avec le climat général du territoire. J'ai voulu alerter avec le procureur de la République, en disant « Attention, nous sommes extrêmement vigilants et extrêmement fermes sur tout comportement, toute attitude qui pourrait être de nature à créer du désordre ou à inciter à la violence ou à la destruction des biens d'autrui. »
Le procureur général Camille Mionsoni, invité ce matin sur Radio Rythme Bleu, vous le savez, cette interview est disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. C'est un enjeu de santé et d'égalité. La province Sud a inauguré ce matin son premier réseau de distributeurs de protection hygiénique gratuite. Une initiative qui découle d'un séminaire sur la précarité menstruelle organisé en 2023 et qui doit permettre de lutter contre cette précarité, Léana Colombo.
Une étudiante sur deux est touchée par la précarité menstruelle. Il était donc important pour la province Sud de se saisir de la problématique, d'autant plus que les conséquences sont bien réelles. Absentéisme scolaire, difficultés d'insertion professionnelle ou encore renoncement à des produits essentiels. Pour le moment, ces distributeurs ne sont présents que dans 4 collèges pilotes. Caméré, où une inauguration a eu lieu ce matin. François Oliveau à Porte de Fer, Mariotti et Louis Léopoldiette. Mais à terme, 35 distributeurs seront déployés en province sud. Une excellente nouvelle pour ces collégiens et collégiennes.
Pour les filles, c'est bien. Bon, comme ça, parce que comme ça, quand il y en a qui n'ont pas de serviettes, ben, ils peuvent venir en chercher, c'est gratuit.
Quand on a nos règles et qu'on n'a pas assez d'argent, ben, on peut venir chercher ici au collège. Du coup, c'est pratique pour les filles.
C'est un petit geste pour certaines, mais un grand geste pour toutes les filles. Mettre des lingettes gratuites, c'est faire un grand pas pour le respect.
On a vraiment besoin de ça. C'est le quotidien, quoi. Moi, je trouve que c'est super qu'ils ont fait ça pour nous.
C'est bien pour les filles. Je sais pas, c'est pour eux. Hein. C'est pas pour nous, c'est pour eux. Peut-être que c'est cher pour eux, mais voilà.
C'est rassurant de voir qu'on peut compter sur le collège quand on a besoin. Parce que c'est pas facile aussi pour les filles quand on n'a pas les moyens.
À cette précarité s'ajoute le tabou et les préjugés autour des règles. Ce dispositif pourra donc permettre de rompre le silence, explique Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
L'objectif de communiquer autour de ça, c'est encore trop souvent quelque chose de tabou, les règles, alors que c'est quelque chose de naturel. Et il faut réussir à en parler plus pour briser ce tabou qui est un vrai frein pour de nombreuses jeunes filles en Nouvelle-Calédonie. Et donc il faut que les collectivités, et nous c'est ce qu'on fait en province sud, mais on n'est pas les seuls, le gouvernement fait aussi sortie avec Isabelle Chambereau, s'empare de ça et débloque finalement ce tabou pour qu'au quotidien, dans nos actions, on le prenne en compte.
Le projet a été porté par de nombreux partenaires, dont les jeunes résidents du foyer Nemehara à Bouraille, qui ont façonné les premiers prototypes de l'équipement. La confection des distributeurs a ensuite été notamment réalisée par les équipes d'Envie, l'entreprise d'insertion pour les travailleurs en situation de handicap.
Imaginons ensemble la démocratie participative au Congrès. C'était le thème des rendez-vous du Congrès hier soir. Il s'agit d'envisager comment la société civile peut être plus impliquée dans les débats, a expliqué la présidente du Congrès, Velma Falaeo.
On a traversé une crise l'année dernière qui nous a montré qu'il y a une grande défiance de la population vis-à-vis des institutions, mais aussi des élus. C'était important de mener ce genre d'études pour voir quelle était la possibilité de mettre en place en fait une structure, un espace citoyen au sein du Congrès, parce qu'on aime dire que le Congrès, c'est la maison du peuple, mais on voit bien aujourd'hui que les citoyens se sentent mis de côté, pas suffisamment pris en compte. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il faut savoir redonner de la place aux citoyens et recréer un lien de confiance, ne serait-ce qu'entre nous, les élus, et la population.
L'étude a été menée par l'agence sociale Fabrique Lab, dirigée par Régis Pradal, qui a expliqué quelle forme pourrait prendre cette participation citoyenne.
C'est finalement une assemblée citoyenne au sein du Congrès, qui permettrait en fait d'intégrer directement les citoyens dans les processus législatifs du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Et donc qui permettrait en fait à tous les citoyens qui reflètent la population dans un panel représentatif, l'âge, le genre, la zone géographique également, tout un tas de critères sociodémographiques qui permettraient de recréer une micro-société calédonienne au sein de cette assemblée qui pourrait donc apprendre sur un sujet, délibérer, co-construire aussi avec les parties prenantes des propositions qui seraient après soumises au débat des élus. Et l'innovation, c'est que les élus seraient obligés, avec un droit de suite, de faire un retour officiel, de débattre publiquement et de faire un retour sur les propositions citoyennes.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. En bref, Juliette Collet s'envole dans quelques jours pour Paris. Miss Nouvelle-Calédonie va représenter le territoire au concours de Miss France en décembre. Comment se prépare-t-elle et comment vit-elle cette aventure? Notez que Juliette Collet sera notre invitée ce soir dans le journal de 17h45. Le vernissage ce soir de l'exposition Drôle d'oiseau à l'Art Factory à Nouméa. Elle a débuté cette exposition en début de semaine et elle propose une trentaine de sculptures d'oiseaux réalisées par Jean-Marie Ganneval avec plusieurs types de matériaux. Et puis enfin ce soir à 17h30, l'Alliance Champlain organise une soirée québécoise. Elle a lieu à la bibliothèque Bernheim, à laquelle l'Alliance Champlain remettra à cette occasion 40 livres québécois. Il est 11h53. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Vous êtes titulaire d'une licence et vous souhaitez devenir professeur des écoles? Demandez votre admission en première année du Master MEF, mention premier degré à l'INSPE de l'UNC jusqu'au 3 novembre prochain. Pour postuler, téléchargez le dossier sur le site internet de l'UNC ou retirez-le directement à l'INSPE au campus de Nouville. Plus de renseignements au 29 05 00.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Cinquième jour de débat à l'Assemblée nationale pour la préparation du budget 2026. Le temps se compresse puisqu'il doit être adopté dans moins d'un mois maintenant. Chaque groupe politique a choisi de retirer 15 à 20% des amendements qu'ils ont déposés, mais les tensions politiques persistent. Hier soir, les députés ont ainsi adopté en commission un amendement qui fait débat, une surtaxe sur les bénéfices des entreprises multinationales censées générer 26 milliards de rendement. Texte voté par les élus de gauche et le Rassemblement national, mais cette disposition fait débat car elle pourrait avoir un effet négatif sur l'économie française. Les explications de Barthélémy Philippe.
Les députés ont eu la main très lourde. Les défenseurs de cet impôt universel sur les multinationales présentes en France mettent en avant son rendement de 26 milliards d'euros. Mais au-delà de ce chiffrage incertain, l'adoption définitive de ce texte mettrait l'économie française en grand danger, comme l'explique l'économiste Anthony Morlet-Lavidali.
Ce qui est absolument terrifiant dans cet amendement, c'est le fait de ne pas voir que les multinationales
sont les grands donneurs d'ordre de nos TPE et PME. En attaquant les multinationales et en pensant préserver nos petites et moyennes entreprises, en réalité, on fait tout l'inverse.
Autre risque dénoncé par Bercy, ce dispositif est contraire aux 125 conventions fiscales bilatérales signées par la France, ce qui ouvre la voie à une multiplication de recours des multinationales devant les tribunaux. Enfin, cette taxe est un signe de la surenchère fiscale de très mauvais augure qui s'empare du débat budgétaire. À taxer à tout va, les députés risquent de mettre un énorme coup de frein à l'attractivité de la France pour les entreprises étrangères.
Cet amendement a donc été voté par les groupes de gauche et le Rassemblement national, un attelage pour le moins hétéroclite, qui a fonctionné plusieurs fois ces dernières semaines et qui est parfaitement assumé par la chef de file Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen.
Je rappelle qu'à peu près tout ce qui est voté l'est grâce à nous. Nous, on essaye d'être totalement cohérents, de ne pas être sectaires. Quand il y a des amendements qui nous apparaissent positifs, nous les votons, d'où qu'ils viennent. Pour l'instant, ce qui a été voté, objectivement, n'est pas honteux. La lutte contre la fraude que constitue une optimisation fiscale qui vise en réalité à échapper à l'impôt, c'est tout à fait cohérent et tout à fait légitime.
Marine Le Pen devant les journalistes parlementaires. Les deux suspects arrêtés après le cambriolage du Louvre sont partiellement passés aux aveux. L'enquête est loin d'être bouclée, mais ces deux hommes ont parlé au dernier jour de leur garde à vue. C'est ce qu'indiquait Laure Becchiot, le procureur de Paris.
Tous deux ont partiellement reconnu leur participation aux faits devant les enquêteurs. Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats instructeurs en vue de leur mise en examen pour les infractions de vol au pluriel en bande organisée, crime faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle. De la même façon, la qualification d'association de malfaiteurs a été retenue, délit faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement.
Les deux suspects sont déjà connus des services de police. Il s'agit d'un Algérien de 24 ans et d'un homme originaire du Mali de 39 ans. Ce dernier était sous contrôle judiciaire après deux condamnations déjà pour vol aggravé. Cette affaire repose la question de la protection du patrimoine. Dans les musées, bien sûr, mais aussi dans les églises, où les vols d'objets liturgiques se multiplient. Dans l'Ouest, les voleurs emportent aussi le contenu des troncs, ces boîtes dans lesquelles les fidèles déposent leurs dons. Trois d'entre eux étaient jugés la nuit dernière pour nous. Sandrine Prioul pour Europe 1.
À la barre, la présidente égrène les églises, les sanctuaires dans le Morbihan, la Vendée, la Mayenne, détournés où ce trio de 23 à 52 ans nommait un guet et s'introduisait à deux dans l'église pour aller rafler les troncs, attraper les pièces à l'aide d'une baguette collante ou plus radicalement en arrachant les troncs des églises avec une meuleuse. Pour des butins en série et variables de 10, 300 ou même 1000 euros, tous les trois reconnaissent avoir commis ce qu'ils appellent une connerie, mais rien de comparable, disent-ils, avec un vol à l'arraché. On n'a agressé personne, défend celui qui a initié ses complices. Mais on avait besoin d'argent, répète-t-il, trop de bouches à nourrir, les emplacements pour les caravanes aussi à payer. Comment vous voyez l'avenir, demande la présidente, qui leur rappelle le préjudice pour des centaines de fidèles. Réponse d'un prévenu, extrêmement bien si j'ai un travail. Le parquet objectera que ces vols méticuleux et organisés ont permis de fracturer et piller des dizaines de troncs. Quant aux victimes, les associations diocésaines du Grand Ouest venues témoigner, elles se tournent vers le box pour rappeler aux voleurs qu'une église est un lieu sacré et pas un distributeur automatique.
À l'étranger, l'ouragan Melissa est le phénomène le plus intense jamais enregistré depuis le début des mesures de ce type en 1935. Lorsqu'il a touché la Jamaïque hier, des rafales ont été mesurées à 300 km/h. Les dégâts sur l'île sont considérables. Le premier bilan, qui reste très provisoire, fait état de 20 morts. Et de nombreuses personnes sont toujours confinées, comme cet étudiant français, Louis, qui vit à Kingston.
Tout est un peu sans dessus-dessous. Il y a les coupures de courant, d'eau, ce qui est normal. On n'est pas encore sorti. On est un peu... On est encore bloqué dans l'université. Tout est fermé pour l'instant, mais nous, on a des réserves de nourriture et d'eau.
Après la Jamaïque, Melissa a touché Cuba après avoir perdu en intensité, mais les rafales atteignaient encore 155 km/h. Israël a cessé ses frappes ciblées sur Gaza. Elles avaient repris hier, alors que le Hamas ne respecte pas sa parole sur la libération ou la remise des corps des otages israéliens. Un coup de semonce qui montre que le cessez-le-feu reste précaire, mais qu'il tient toujours. Frédéric Simon est le correspondant d'Europe 1 en Israël.
Ce matin, aux alentours de 9h, heure de Paris, l'armée israélienne a annoncé que, conformément à la décision de l'échelon politique, elle interrompait ses frappes dans la bande de Gaza et que, de son point de vue, le cessez-le-feu était à nouveau en vigueur. Mais quelques heures heures plus tard, elle reprenait ses opérations contre des infrastructures du Hamas, des tunnels notamment. Rien de comparable toutefois aux dizaines de frappes menées hier en riposte aux violations successives des termes du plan de paix américain par le Hamas. D'une part, une offensive sur une unité déployée dans le sud de la bande de Gaza, provoquant hier après-midi la mort d'un soldat. Et de l'autre, l'insistance du Hamas à ne pas restituer la totalité des corps des otages morts en détention. L'armée israélienne a diffusé hier des images prises par un drone. On y voit clairement des membres du Hamas extraire une dépouille d'un bâtiment avant de l'enterrer dans un terrain vague, dans le but de mettre en scène sa découverte. Cette mise en scène macabre a d'autant plus choqué en Israël que la dépouille en question correspondait au corps d'un jeune homme assassiné le 7 octobre 2023, corps qui avait en partie été restitué il y a plusieurs mois. Dans ce contexte, certains responsables israéliens exigeaient une riposte plus cinglante que celle qui a été lancée, mais c'était compté sans la détermination de Donald Trump à maintenir le cessez-le-feu. L'ampleur et la durée de la riposte ont été décidées en étroit de coopération avec les États-Unis.
À midi, une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et on se retrouvera ensuite pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pourquoi tu souris bêtement ?
Bah, on est le 4.
Oh, tu y as pensé, mon amour.
Comment tu veux que j'oublie le Happy Day ? C'est tous les 4 du mois au complexe 4. Il y a moins 10% sur une sélection d'articles chez C-Local, la Maison du Pain et Cégel.
Happy Day ? Et notre anniversaire de mariage ?
Oui, bon, oui, non, mais ça va, je peux pas penser à tout non plus.
Hein. Le Happy Day, c'est tous les 4 du mois au complexe le 4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Plus d'infos sur Facebook le 4. Faites vos courses autrement.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par le football et la 10e journée de Ligue 1 qui s'est jouée ce matin. Léana Colombo, on fait le point sur les résultats.
En déplacement en Bretagne, le PSG s'est cassé les dents contre Lorient et fait match nul, un partout. Une fausse note conjuguée à la sortie sur blessure de Désiré Doué, touché à la cuisse. Luis Enrique s'est montré agacé après la rencontre. L'entraîneur parisien a parlé de mauvais match.
C'est dommage parce que je pense qu'on a fait un premier mi-temps très mauvais. On n'a pas créé aucun occasion en faveur. Je pense que la deuxième mi-temps, on a amélioré un petit peu, mais encore pas le suffisant pour gagner ce match. C'est un dommage parce que ce sont importants les points, et en ce moment-là spécialement, mais il faut continuer.
Les Parisiens, toujours premiers du classement, rencontreront Nice le 2 novembre prochain. Et justement, les Aiglons, eux, se sont adjugés une belle victoire face à Lille. Ils se sont imposés à domicile 2-0. Il y en a par contre qui peuvent s'en vouloir. Marseille concède le nul contre Angers et manque de reprendre la tête de la Ligue 1 et se retrouve 3e à 2 points du PSG. Belle opération pour Monaco, l'actuel dauphin qui l'emporte sur le terrain du FC Nantes 5-3. Succès aussi de Strasbourg qui remonte à la 4e place du classement après sa victoire contre Auxerre. Le Havre enchaîne face à Brest et l'emporte 1-0. Lens, de son côté, sombre sur la pelouse de la Lanterne Rouge. Metz 2-0 et sort du top 5. L'autre club de la capitale, le nouvellement promu Paris FC, arrache le nul 3 partout contre l'Olympique Lyonnais. Enfin, Toulouse et Rennes, deux équipes de milieu de tableau, se sont quittées sur une égalité de 2 buts partout.
Et puis le foot, c'est aussi la sélection calédonienne qui a terminé sa préparation au Mondial des moins de 17 ans au Qatar.
Nos représentants sont actuellement à Dubaï. Ils affrontaient la nuit dernière pour nous la sélection de Zambie pour un dernier test match avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Et c'est une nouvelle défaite pour nos cagous qui se sont inclinés 3-0 face à une solide formation U17. Le week-end dernier, la sélection avait déjà perdu 3-0 contre les U19 d'Al Ain. Lors de leur premier match, ils avaient tenu en échec le Tadjikistan sur le score d'un partout. Place au Mondial, désormais leur entrée en lice, ce sera le 4 novembre face au Portugal.
On passe au tennis et c'était une journée difficile pour les Français lors du deuxième tour du Rolex Paris Masters.
Et oui, et comme en 2023, il n'y aura pas de Français au troisième tour après la défaite de Corentin Moutet ce matin. Le tricolore a été impuissant face à Alexander Bublik qui a été dominé en 2-7, 6-3, 7-5. Plus tôt dans la journée, Alexander Muller et Arthur Cazot s'étaient également inclinés. Et dans un remake de la finale du Masters 1000 de Shanghai, les cousins Valentin Vachereau et Arthur Hinderschneck se sont une nouvelle fois affrontés. Comme en Chine, le Monégasque a renversé le match après avoir perdu le premier set tête. Vachereau défiera donc au troisième tour le Britannique Cameron Norrie, 31e mondial.
Allez, pour terminer, revenons en Calédonie avec du sport pour une bonne cause et une journée solidaire au lycée Jules Garnier. Comme chaque année, l'établissement organise les 12 heures pour l'Association calédonienne des handicapés. Il s'agit en fait d'un relais solidaire à l'issue duquel les dons récoltés seront versés à l'association. Éric Reuillard est professeur d'EPS au lycée Jules Garnier.
Et bien sûr, chacun est libre de donner ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Le pari étant qu'on paye 100 francs pour un tour. Donc la piste du lycée Jules Garnier fait 250 mètres. Donc si vous faites par exemple 1000 mètres, c'est-à-dire 4 tours, on va vous donner 400 francs. Alors bien sûr, vous pouvez donner plus et courir moins, ou courir plus et donner un petit peu moins. Le tout étant de comprendre que c'est une dimension solidaire collective. Vous avez sur l'organisation la classe de terminale spécialité EPS qui s'occupe de l'organisation de la journée, donc notamment sur tout ce qui est accueil, comptage des tours, suivi global des installations du matériel. Et après, par contre, tout élève de l'établissement est libre de venir participer à tout moment de la journée. C'est pour ça qu'on met une amplitude horaire très importante de 7h à 19h, ce qui fait que tout à chacun a forcément un moment où il peut venir faire quelques tours et donner quelques pièces.
Et de nombreuses personnes sont encouragées à venir participer à cet événement, les professeurs, les clubs sportifs, les parents d'élèves, mais aussi et surtout les élèves du lycée Jules Garnier.
On est solidaires des 12 heures de Jules Garnier, donc on est venu donner de l'argent pour faire les tours. C'est toujours bien de donner pour les associations, mais quand on fait des événements, ça met de la visibilité en plus sur récolter des dons, donc c'est ça qui est bien.
C'était pas de mon initiative, c'est les profs qui nous ont dit qu'on allait faire ça, mais oui, si c'est une occasion d'aider les gens, c'est cool de faire ça.
Vous avez expliqué que c'était pour une cause importante, donc le handicap, et qu'on aide une association, donc finance cette association qui va aider les personnes qui ont un handicap.
J'ai décidé de participer avec un ami à moi parce que c'est pour soutenir la cause des handicapés. Parce que pour moi, ça semble très important qu'il soit plus mis en valeur dans la société, parce que y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas leur situation, que c'est très difficile dans la vie de tous les jours. Puis c'est pour courir aussi.
Et à 10h ce matin, le lycée avait déjà récolté près de 43 300 francs. Cette journée se déroule jusqu'à 19h et elle se passe sur le terrain de sport du lycée Jules Garnier. Il est midi 6, la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, Infomac se poursuit avec les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous les consacrons cette semaine aux difficultés dans le secteur du BTP.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.